Parce que Caïn, ayant pris conscience qu'il y a une morale, que Yesh Din ve Yesh Dayan, qu'il y a une loi morale et un juge, alors, encore une fois, il est affolé et il pense à ce qu'on appelle la justice immanente, c'est-à-dire la vengeance naturelle de la justice qui fonctionnerait comme une loi de la nature. Il y a une sougia très célèbre dans le Talmud de Jérusalem, dans Yerushalmi, dans la Maseret Yoma, que l'on peut être étudié une fois, sinon on l'étudiera le jour qui court, si on se rencontre, ça nous prendrait trop de temps, mais je vous dire l'essentiel, sans citer en hébreu, parce que ça ferait trop d'exégèse. On a demandé à la sagesse, celui qui a fauté, quel est son statut. La sagesse a répondu, le mal engendre le mal, il sera rencontré par le mal. Mida kengen mida. On a demandé à la Torah, à la prophétie, celui qui a fauté, Hote Madino, celui qui a fauté, quel est son statut? La prophétie a répondu par un verset dans le Pshat et relié à un autre contexte, à Nefesh Hote Titamut. C'est la personne qui a fauté mourra. Avec la prophétie, on ne peut rien cacher. Okay? On ne peut pas ruser, on ne peut pas. La prophétie répond, Nefesh, top. Nefesh Kitaheta. Le Nefesh Hote mourra. C'est une nuance hein, pour la Kabbalah. Ce n'est pas toute l'âme, le Nefesh sera. Et ensuite, on a demandé à la Torah, Hote Madino, elle a répondu, Yavi Korban ve Ikaper. Qu'il apporte un sacrifice, il sera expié. Il y a déjà un chidouche par rapport à la Nebuah et par rapport à la Chorma. Et après, Shalou, la Kadosh Baruch, on a demandé à Dieu, Hote Madino, et il répond, Yashu ve Ikaper. Qu'il se repente, il sera expié. Et donc, les quatre niveaux du problème. Et là, on voit bien que Caïn est aux prises avec le premier niveau. Et il dit, Hen Vaya Kolmotsi Yahargeni. S'il en est ainsi, quiconque va me trouver, va me rencontrer, va me tuer. La vengeance de la justice immanente, l'œil était dans la tombe, etc. Et c'est toute cette sensibilité-là qui va être évacuée par la suite du récit. Et surtout par notre Midrash. Alors, donc Dieu va lui donner un sursis. C'est, vous l'avez au verset précédent, verset 15. Et ce sursis est signalé par un signe que Dieu met sur le front de Caïn. Et d'après le Midrash, le signe qu'il y a sur le front de Caïn, c'est le mot de Emet, la vérité. C'est-à-dire l'objet du sursis est que le temps de l'histoire auquel Caïn sera donné fera la preuve si Caïn était assassin ou autre chose. Peut-être était-il justicier. C'est un autre problème. Et alors il faut que ça soit mis en jeu dans une histoire. À la fin de cette histoire... Et toujours, cette génération, c'est un temps d'histoire, il y aura un jugement dernier, un dernier jugement qui révélera qu'est-ce qu'il y avait à l'origine, si Caïn était vraiment coupable ou, comment dit-on, shogeg, ou ou irresponsable, ou sans, n'était pas responsable. Bon. Et finalement, on apprend que la fin de cette histoire, la 16e génération, vous voyez, je vous raconte le Midrash très rapidement. En fin de compte, on s'aperçoit que le dernier descendant de Caïn à la 7e génération, qui s'appelle Tuval Caïn, en grec c'est Vulcain le forgeron, dans la mythologie grecque, Tuval Caïn, Vul Caïn, un phénomène de vulcanisation, et devient fabricant des armes, des premières armes. Alors il fabrique la première arme qui était un arc et une flèche. Aujourd'hui nous disions une flash. aujourd'hui, nous dirions les fusées atomiques, mais c'est la première flèche, c'est déjà la fusée atomique. Et alors, l'histoire racontée par le Midrash dit que la première flèche qui a été tirée par Tuval Caïn est arrivée sur le front de Caïn et a effacé la lettre Aleph du mot Emet, il est resté Emet, il en est mort. Et ça veut dire que la première arme a tué le premier assassin. Et donc, il s'est avéré que Caïn était coupable, puisque la civilisation qu'il fonde va en fin de compte aboutir, et je ne sais pas comment on appellera aujourd'hui, Marcel Dassault, c'est-à-dire les marchands de canons. C'est très, très inquiétant pour la civilisation contemporaine. Elle est fondée sur la suppression du frère. Vous rappelez le mythe de Romulus et Remus, fondateurs de la civilisation romaine, et elle arrive à Marcel Dassault. Okay. C'est l'histoire de Caïn jusqu'à Tuval Caïn. Bien. Alors, en tout cas, Caïn est donné un sursis, il est protégé, et puis, voilà notre verset. Verset 16, « Vayetse Caïn minifne Hachem » et Caïn sortit de devant Hachem. Toute l'exégèse du Midrash va porter là-dessus. Un des commentateurs du Midrash va dire, mais qu'est-ce que ça veut dire et Caïn est sorti de devant Hachem. Est-ce qu'il y avait un temple où Dieu se révèle et que Caïn a quitté le temple, le Beth Amidrash? Est-ce qu'ils étaient dans un makom prati, une bait prati, une maison particulière où ils s'étaient rencontrés comment comprendre le verset Dieu lui parle du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il sort de devant? Alors retenez le pshat des trois mots. Vayetse Caïn minifne Hachem. Et Caïn sortit de devant Hachem. Vous vous rappelez, je vous avais signalé, c'est le nom que la Torah emploie pour dire Dieu dans ce contexte, dans ce récit, c'est Hachem. C'est pas Elohim, et j'y reviendrai rapidement. Vayeshev Beretz Nod, et il s'installa. Il s'installa, aidez-moi à traduire, il habita, non hein il séjourna, Vayeshev, okay Beretz Nod. Et là, nous avons le sujet d'un cours entier sur ces deux mots. Eretz Nod, Nod c'est Nad. Eretz Nod, ça veut dire la terre des nomades. Et Vayeshev, et Nod, c'est contradictoire. Vayeshev, Beretz Nod. C'est très fort en hébreu. Et Kidmat Eden, certains traduisent à l'est Kedem du Eden, d'autres traduisent dans l'antérieur, Kidmat, de ce qu'il y avait avant le Eden. Bon, quoi qu'il en soit, c'est là où se trouvait Adam Arishon. Mais par les récits précédents, on va prendre trop de temps pour le pshat. Si c'est suffisamment lu, on peut commencer à lire le Midrash qui va apprendre de ce verset que Caïn a fait de Tshuva. Alors on va y aller doucement. Vous allez prendre votre texte. Et dans le Midrash. Voilà. Alors, c'est au haut de la page, hein, de building. Alors, Vayetse Caïn minifne Hachem. Me'echan yatsa, dit le Midrash. D'où est-il sorti? Me'echan yatsa, d'où est-il sorti? Vous voyez, les questions du Midrash sont toujours très simples, apparemment. Rabbi Yudan, Beshem Rabbi Aibu Amar. Premier enseignement. Ifshil devarim la horav veyatsa. Comment traduire ifshil? Ifshil, ça veut dire. Suspendre, décrocher. Nous avons une autre girsa, une autre recension de ce midrash en Vaikra Rabba, Parasha 10, où il y a Ifshil Begadim Me'ahorav. Et ça voudrait dire il s'est déguisé. Mais Ifshil Devarim Me'ahorav, ça veut dire il a rejeté des paroles derrière lui, dire il a fait fi de ce qu'il avait entendu de Dieu. Et je continue, Ve'yatsa, il est sorti de devant Dieu. Ke gonev da'at ha'ayona. Comme quelqu'un qui ruse devant la volonté supérieure de Dieu. Littéralement, ça veut dire comme quelqu'un qui vole la conscience de celui devant qui il était. Gnevat da'at, ça veut dire tromper quelqu'un. Lui voler sa confiance. C'est clair ? Ça veut dire que, en réalité, il aurait dû accepter le statut du nomade, de l'exilé, comme sanction de la faute. Et vous rappelez, on l'a cité d'ailleurs dans le cours de la semaine dernière, le Midrash, la Gemara, le Midrash aussi, mais surtout la Gemara dans Yoma, va beaucoup insister que l'exil comme sanction, c'est la sanction de la faute de Caïn à l'origine, c'est-à-dire Sinat Hinam. Par exemple, mais c'est très, très dilué comme expression, Sinat Hinam, c'est la haine gratuite, c'est le fait de ne pas supporter l'autre uniquement parce qu'il est l'autre. Ne mettez aucune implication ni morale ni politique dans cet enseignement parce que chaque chose s'explique dans son propre contexte. Okay je veux dire un peu sous forme détendue, on pourrait expliquer le plaidoyer et en même temps l'aveu de Caïn, l'aveu ne va venir que beaucoup plus tard, de la manière suivante. Comment Caïn plaide pour lui-même? On l'accuse d'être assassin, qu'est-ce qu'il répond? Ani lo rotzeach. Mais lisez ça en deux mots. Ani lo rotzeach. Il ne veut pas un frère. Hein. Alors c'est dans la même... C'est clair. Ani le Rotsehar, ça veut dire, mais je ne suis pas assassin. Hein. Mais qu'est-ce qu'il dit en même temps? Il avoue sa faute. Ani le Rotsehar. Et c'est ça la sinat hinam. Hein. Top. Où est-ce que l'hébreu nous permet de dire hein. Et... C'est vrai? Non, c'est pas qu'il c'est bdicha. C'est bdicha chez la chidouche. D'ailleurs, je vous avais dit, pour la première faute, quelque chose d'analogue, c'est que le grand désordre qu'il y a dans le monde a commencé avec le premier homme. Le désordre en hébreu, ça s'appelle balagan. Zéou. Et dès qu'il est rentré dans le jardin, ou balagan, il y a eu le balagan. Et peut-être que ça nous donne un exemple que qu'est-ce que c'est le Lashon HaKodesh ? C'est une langue pleine d'humour. Et j'ai appris de mon maître que Ruach HaKodesh, ça veut dire l'humour. Ruach HaKodesh. Vous n'êtes pas convaincu. Vous manquez d'humour. Qu'est-ce que c'est Ruach HaKodesh ? Oui, par exemple. Ça, disons, ce serait de l'ironie. Mais. C'est pas le sujet. Mais rappelez-moi qu'un jour, on a dit ça. Mais les Français, enfin, la langue française, a senti quelque chose de ça. L'humour, ils appellent ça l'esprit. Votre silence m'inquiète. Et alors, les Grecs appelaient ça le sel. Et c'est devenu de l'esprit de sel. Le sel attique, très ancien, attique. Bon, alors voilà la première explication du Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire Yatsa, Milifne Hashem, il est sorti de devant Dieu. Ça veut dire il a coupé les ponts. Dieu lui a dit, ben voilà, tu vas être exilé, ça sera la sanction de ta faute. C'est là que nous étions, que l'exil et la sanction de la sinat hinam. On a parlé du plaidoyer de Caïn, Ani lo rotseh ah. Bon, c'est un sujet pour lui-même, mais c'est très clair. Du point de vue de l'enseignement du Talmud, on a cherché quelle était la faute d'Israël au temps du deuxième temple, et on n'a pas trouvé. Idolâtrie, il n'y avait plus d'idolâtrie. Meurtre, il n'y avait plus de meurtre. Débauche, il n'y avait plus de débauche. Ça, c'était au temps du premier temple, que le premier temple a été détruit à cause des trois fautes fondamentales. Tout le temps de la prophétie, les prophètes tonnent contre ça. Il semble qu'on est un peu revenu au temps de la prophétie. Vous remarquez que... Et on arrive au temps de Beit Sheni, au temps des Tanaïm, au temps du Talmud, tout ça a disparu. Subitement, il n'y a plus d'idolâtrie. Mais alors, qu'est-ce qu'il y avait? Alors, la Gemara enseigne de cette manière, ils étaient tous tzadikim, kudoshim, hachamim, qu'est-ce qu'il y avait? Ils ne s'aimaient pas entre eux. Sinatrinam. Alors l'exil a commencé. Vous voyez que nous sommes soumis à une épreuve typique dans la société juive. Or, comme on raccroche au temps du deuxième temple, il est normal qu'on hérite des dossiers qu'il faut arriver à résoudre. Ça, c'est Ksat Nehama. Alors, revenons à notre... Comme je dis souvent, la société israélienne est d'origine juive. Alors, on hérite des problèmes de l'histoire juive pour les... C'est clair? Top. Et alors... Et revenons à notre midrash. Voilà la première thèse. Alors qu'il devait être Narvanad, Vayeshev Beret Nod. Ça veut dire qu'il a coupé les ponts, il a fait le contraire de ce que Dieu lui demande. C'est clair, je dis Beige. Deuxième enseignement. Rabbi Chama, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, Amar, Yatsa, Kemafris, Vechim Ramme, Bebo'o. Il y a plusieurs midrashim sur ces termes-là, mafris et meramé. Je vais aller vite parce que je voudrais arriver au thème lui-même. Je vais vous citer un des midrashim, un des mefarshim principaux qui dit ceci. Il est parti à grandes enjambées, mafris, comme mafris parza, okay, comme un marcheur. Ça commence le juif errant, okay, comme il s'appelle Ahasverus dans la légende du juif errant. Okay. C'est bien ça? Oui, oui. Vechim Ramé est comme rusant, trompant Beboro, son créateur, c'est l'explication complémentaire inverse. C'est qu'il ne va pas faire ce qu'il faudrait faire, mais il va faire comme si c'était ça qu'il faisait. Alors il s'en va, en prenant son bâton de juif errant, à grandes enjambées, pour réaliser le narvanad, tu seras errant. Mais en alors vayetse milifne Hashem en tromperie de juif de l'exil, je vais vraiment dire en stratégie de top. Alors qu'il se considère pas du tout comme exilé, il fait semblant, il appellerait ça une diaspora, je sais pas, mais c'est vayeshev beretzno. Il s'installe dans le pays de l'exil. C'est extraordinaire comme préfiguration de l'histoire réelle. Et on arrive là. Rabbi Chama, Bechem Rabbi Chanina, Bar Rabbi Tzrak Amar, troisième enseignement, au nom de Rabbi Tzrak, Yatsa Sameach. Il est sorti de cet entretien heureux, en joie. Là, je crois qu'il y a un pshat très très direct, ça va être fondé par un autre verset, mais voyez, c'est Minifne Hachem, il peut être que Sameach. Il sort d'une entrevue avec Hachem, alors il est Sameach. Et donc, à charge d'expliquer qu'est-ce qu'il y a dans cette simcha. Qu'est-ce qu'il y a dans cette simcha, la tshuva est possible. On n'est pas encore arrivé au problème lui-même. On apprend de Milifne Hachem, que ce n'est pas Elohim. Mais ça, j'y arrive. Voilà, doucement, doucement. Et voilà comment la Gemara dit. Ce troisième pirouche est très hassid. S'il était vraiment Lifne Hachem, il ne pouvait être que Sameach. Okay. S'il était Lifne Elohim, bon, on peut comprendre la panique. C'est la Midat Hadin, Elohim. C'est le fonctionnement sourd et aveugle des lois du déterminisme impitoyable. Alors, devant Elohim, c'est la panique que j'ai décrite tout à l'heure. Okay. Même Lifne Hachem, devant celui qui est Dieu, devant le Dieu comme père du monde, c'est ça que ça veut dire créateur. Et alors, là, c'est Simcha. Devant Dieu en tant que juge du monde, Elohim, alors là, c'est la crainte. Encore une fois, pour revenir à la sensibilité hébraïque, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est le Père qui est le juge. Et alors, dès qu'on s'aperçoit que le juge, c'est le Père, la Simcha revient. C'est clair jusque-là. Quand je disais, c'est très chassid. Okay. Quand le chassid dit « Ribbono shel Olam », on entend « Papa okay ». Tandis que quand le mitnaged dit « Ribbono shel Olam »,« Ribbono shel Olam », on entend « Oy vavoy ». Vous avez compris la différence entre Hachem et Elohim ? Yassa Sameach, et alors voilà comment ça va être expliqué, et là je vous donnerai juste une indication de parenthèse, et d'après un verset où Dieu parle à Moïse de Aaron. Hine, hu yotse likratcha, quand Moïse a eu la vision du buisson ardent, et que Moïse dit à Dieu, mais je ne sais pas parler, comment je vais dire aux Hébreux, aux Égyptiens, le moment est venu. J'ai toujours en tête une image imaginaire de Herzl arrivant à Saint-Paul, à la rue Pavée, okay, et disant au rave de la rue Pavée, le temps est arrivé de monter en Eretz Israël, imagine. Qu'est-ce que va lui répondre le Parnasse de la rue Pavée ? Tu bégayes. Oui, c'est ce que Moïse dit. Ils vont me dire je bégaye. C'est clair tout ça. Alors, Dieu lui dit, n'aie pas peur. Il y a Aaron, le grand rabbin, qui est ton frère, qui arrive, et même qu'il est très heureux de te rencontrer. Regardez quel humour de la Torah. Hein. Le grand rabbin rencontre Herzl et le grand rabbin est heureux de rencontrer Herzl. Ça, c'était Moïse et Aaron. Okay. J'ai compris tout ce qu'il y a là-dedans. Okay. Et alors, Aaron était le grand prêtre. Okay. Enfin, top. Hine, hu yotse likratcha, vera'acha, il te verra, vesamach velibo. Et il sera heureux en son cœur. Vous avez vu ce remède du verset. Okay. Alors, le jour où ça arrivera, ça, que le grand rabbin rencontre Herzl et que ce verset se réalise, Veracha, Vesamar Belibo, eh bien ça a dû arriver, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais ça a dû arriver puisqu'on est là. Voilà, alors il est sorti, dit ce troisième enseignement, Sameach. Alors je vous donne une parenthèse, on étudie ça dans le Zohar bien sûr, mais l'approche la plus facile c'est dans le Shla, que Moïse et Aaron sont le Gilgul, de Caïn et Hevel. Donc c'est l'inverse, de Hevel et Caïn. Et alors cette rencontre entre Moïse et Aaron, ça va être la rencontre pour le tikkun, pour la rédemption de Hevel et Caïn. Et cette fois, Caïn reconnaît que c'est Hevel qui est le berger. Et vous rappelez que Caïn était l'aîné et Hevel était le cadet. Cette fois, Moshe est le cadet et Caïn est l'aîné. Et alors c'est le tikkun de l'aîné qui reconnaît que le berger, c'est clair, que le vrai aîné c'est le cadet. Bon, c'est un problème pour lui-même. Je vous indique comment le Zohar a expliqué cela en parlant du problème entre Jacob et Ésaü. Jacob étant le vrai premier-né. Vous voyez qu'on retrouve la même équation. Okay. Alors le Zohar explique que le vrai Bechor, c'est celui qui reconnaît qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Celui qui se prend pour le Bechor, c'est pas le vrai Bechor. C'est clair ? Ça, c'est Ésaü. Il s'est pris au sérieux. Oui, manque du mot. Okay. Il s'est pris au sérieux. Je suis le premier. Réchid Goïm Amalek. Et en réalité, le vrai Bechor, c'est celui qui sait qu'il y a quelqu'un devant lui. Et le Zohar l'explique à sa manière comme ça. Vous prenez le mot de Bechor. Le Bet, c'est la deuxième lettre des unités. Le Kaf, la deuxième lettre des dizaines. Et le Resh, la deuxième lettre des centaines. Donc Bechor est celui qui sait qu'il y a quelqu'un avant lui. Aleph. Yud et Kouf. Enfin, et Kouf. Kouf. La reine a marqué Kouf. La main, Omrim Kouf. Non, Omrim Kouf. Ah, Niro. Non, c'est Kouf. Miamar Kouf. Aot, c'est Kouf. למשל, יש אומרים צדי, אבל זה צדיק. לא, זה לא בדיחה. טוב, אור מיהו. או... או... או סוג'י. זה כמו סק לזוהר אקספיק, לבריטב בכור, זה ז'קוב. שרה שדבולה על הסורתי דז'י. Avec le verset « Béni Bechori Israël ». Le Midrash explique, le Zohar le reprend, d'autre part, à sa manière, que quand est-ce qu'on saura que c'était vraiment Jacob qui était l'aîné et pas Ésaü, c'est à la sortie d'Égypte. « Béni Bechori Israël » a été dit à la sortie d'Égypte. Quand Dieu parle au Pharaon, c'est pas ton premier-né, c'est le mien. Okay. Or, vous rappelez, nous l'avons vu dans le cours précédent, ou alors c'est au cours de Paracha, c'est que l'Égypte a incarné la tendance de civilisation de Caïn. Vous vous rappelez quand on a étudié la différence des offrandes? Oui, c'était au cours de Paracha, dans Kitabou. Relisez ce que raconte la fin du livre de la Genèse à propos de la civilisation égyptienne. Les prêtres possédaient la terre. Vous vous rappelez de cela? C'est-à-dire, toute la terre était possédée par le pharaon, sauf Admat HaKohanim. Alors que la Torah va révéler une législation opposée à cela. Dafka, le Kohen, est celui qui ne possède pas la terre, il est le berger. Vous vous rappelez de ça, okay? Et alors c'est au bilan de la civilisation caïnite de Mitzrayim qui se révèle que le vrai, véritable premier-né, c'est Jacob, c'est-à-dire Israël. Béni Bechori, Israël. Alors, nous sommes où dans l'analyse? Ah oui, quand Aaron rencontre Jacob, Moïse et qu'il est sa mère. Reprenons les versets. Pour Caïn, le verset a dit « Va yetse Caïn milifne Hachem » et pour Aaron, qui va rencontrer Moïse, il y a « Hine hu yotse likratcha veraacha vesamar velibo ». Vous voyez que le Midrash ne joue pas sur des analogies formelles de mots analogues. Il suit un enseignement qui est très important. On est sorti du pshat de « Va yetse milifne Hachem ». Puisque Hachem lui a parlé, alors il sait que le repentir est possible. Alors il est heureux. Bichlal, on n'a même pas besoin de cette clause pour l'indication que j'ai donnée au niveau de la chassidoute. Dès que l'homme reconnaît que son créateur, c'est Hachem qui est Elohim, Hachem ou Elohim, alors la rencontre avec le créateur ne peut pas ne pas être dans la simcha. S'il n'arrive pas à rencontrer Hachem, il ne rencontre que Elohim, Dieu à travers le masque de la nature. Et la nature, c'est le déterminisme impitoyable, il n'y a pas de chouva, le temps est irréversible, etc. Alors là, c'est la panique de la tragédie que je décris tout à l'heure. C'est clair jusque-là ? Pas Garbo, Adam Richon. Alors voilà que Adam Richon le rencontre, comme par hasard. Okay. Alors que Caïn est en joie. Alors Adam se dit, il s'est passé quelque chose. Or lui, il avait déjà un problème. Okay. Vous rappelez de ça ? Alors il lui demande, qu'est-ce qu'il peut lui demander d'autre ? Mana asa bedincha. Qu'est-ce qui a été fait dans ton jugement ? Demande Adam à Caïn. Et vous rappelez que nous avons là les deux problèmes exemplaires. La faute de Adam, c'est la faute par rapport à Dieu, Ben Adam Lamakom. La faute de Caïn, c'est la faute par Adam, par rapport à l'autre créature, Ben Adam Lachavero. C'est clair jusque-là ? Donc, alors, il dit, Manasseh Bedincha. Ça veut dire que jusque-là, Adam n'envisage pas l'éventualité du repentir possible. On continue. Amarlo, il lui a dit, Caïn lui a répondu, Asiti Tshuva, j'ai fait Tshuva, Venit Pacharti. Alors c'est là qu'on retrouve le mot de Pshara. Je vous signale qu'il y a certaines recensions du Midrash où il y a Veparashti et pas Venit Pacharti. Bon, mais la Girsa la plus, courante, c'est celle-là. Les Mefarshim, en particulier Rashi, explique l'autre Girsa. Donc on va ici s'arrêter un peu. Qu'est-ce que ça veut dire Pshara par rapport à la Tshuva? Voilà, la réponse la plus simple serait, mais j'aimerais bien que vous participiez à cela, serait que avec la Midat HaDin, il n'y a pas de Pshara possible. Et alors, la Pshara est possible devant Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que l'homme, dans son éveillement à la conscience de soi, cherchant à se connaître dans son monde, se connaît dans un monde déterminé. Et s'il n'y a pas de révélation, alors, en particulier pour notre problème, il se connaît dans la solitude, il se connaît dans la perdition. Et pourquoi il y a un drame ? Parce qu'il n'est pas un être de nature. Si l'homme était un être de nature, il ne serait pas du tout préoccupé, ni remords, ni autre chose. Il n'y aurait pas de tragédie s'il était un être de nature. Et voilà qu'il a une conscience d'être qui est pas exactement un être de nature, quoiqu'il l'est aussi. Et puis, il prend conscience de son monde comme étant la nature. Et alors, bien sûr qu'il peut être croyant, déiste. Mais le visage de Dieu est un Dieu surnaturel, mais se définissant par rapport au naturel. C'est-à-dire que la tshuva n'est pas possible. Il faut que Hachem, enfin que Dieu se dévoile à lui comme Hachem, pour qu'il soit dans cette joie qui dévoile que la tshuva est possible. Mitbarer, il apparaît que Adam n'avait pas encore pu réaliser cela, que son créateur, c'est Hachem qui est Elohim. Il y a quand même une différence énorme dans les versets qui nous racontent la conséquence de la faute chez Adam et chez Caïn. Pour Adam, le verset 10, si vous voulez, on peut le revoir dans les chapitres précédents, va garer Shoto Meganaïden, que Adam a été expulsé, exilé, va garer. Littéralement, ça veut dire divorcé, comme si Dieu lui avait dit get, fini. Okay. Et alors, de cette expérience de séparation, il n'y a pas éventualité que le repentir soit possible, que le retour soit possible. Il est en dehors. C'est clair jusque-là ? Tandis que voilà que le privilège de Caïn, c'est que Hachem s'est révélé à lui. Alors il sait que c'est Hachem qui est derrière Elohim, qui est en réalité Elohim, Hachem ou Elohim, et par conséquent, il a en fin de compte effectué la tshuva. Et on l'apprend de quel mot du verset ? Vayeshev Bereznot. Et tout ce qu'on a vu précédemment, des enseignements précédents, se récapitule. Okay ? C'est précisément parce qu'il a accepté d'être l'habitant de Eretz Nod, qu'il a pu faire Tshuva, que sa Tshuva a été acceptée, alors Vayeshev Be'eretz Nod. On retrouve un verset très analogue dans l'histoire de Jacob. Vayeshev Yaakov Be'eretz Megure Aviv. C'est très parallèle à Vayeshev Be'eretz Nod. Je voudrais vous citer ici, je ne sais pas pourquoi j'y pense maintenant, enfin c'est dans le sujet d'ailleurs, une expression de Lacan, qui est très connue d'ailleurs, mais qui va en partie très, très directement dans ce sujet. Vous avez très bien compris que l'histoire Caïn-Abel est rejouée dans l'équation Jacob-Ésaü. Or, c'est Jacob qui est le véritable aîné, et en plus, il va prendre sur lui la pérégrination de l'exil, comme disent les traducteurs. Et Lacan, je ne sais pas si vous avez, savez qui il est, mais en particulier pour notre sujet, il était marié, il est mort il n'y a pas longtemps, il était marié avec une juive, et à travers laquelle il a connu des juifs, dont un en particulier, qui s'appelle Emmanuel Reiss. Je ne sais pas si son nom vous dit quelque chose. Toi, oui. C'est lui qui m'a appris que chez les Russes pieux, on mangeait la viande du vendredi soir avec de la confiture. J'ai l'impression que... c'est la première fois que j'ai vu ça. Le Polonais aussi. Ah, c'est le poisson. Et alors, peut-être que parce que la Russie par en haut, contigu au Canada, et là-bas, on mange beaucoup de confiture avec le temps. Je me rappelle, un moment d'histoire, il était à Orsay. Enfin, on était resté stupéfait. Nous, on débarquait d'Afrique du Nord, alors la viande à la confiture. Et on le voit prendre sa viande et la mettre de côté en attendant le dessert. Et il était satisfait au dessert, il y avait de la confiture. Et puis, il mélange ça. Il dit, sinon, c'est pas Shabbat. Bon, alors, on revient au problème. C'était un très grand érudit. Lui aussi est mort il y a quelques années. Il a été un des élèves de M. Gordin, c'est un grand érudit, spécialiste de la littérature russe, et de beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Et c'était Emmanuel Reiss qui fournissait à Lacan les thèmes du Midrash dont Lacan avait besoin pour son enseignement de structuralisme linguistique, ou comme on appelle ça, freudien. Donc, et en particulier, sur le problème de... Je ne peux pas écrire, mais vous allez visualiser, de Jacob, et il se gargarisait en disant « Et je m'appelle Jacques », parce qu'il s'appelait Jacques, Jacques Lacan. Il avait formulé cela, son grand thème, c'était le nom du Père. Qui porte le nom du Père? En termes bibliques, c'est par qui passe la bracha. Est-ce que c'est Ésaü qui portera le nom du Père, ou est-ce que c'est Jacob qui portera le nom du Père? Il a écrit ça en français, à la manière du Midrash. Le nom dupe erre. Ça veut dire « Celui qui n'est pas dupe sera errant ». Le nom du Père. Et ça y est, alors vous raccrochez à ça. Donc, en parlant de l'histoire de Jacob, on revient à... Et malgré les apparences, c'est un cours de Midrash, pas de structuralisme. Mais vous voyez ce qu'on peut faire avec le Midrash, quand on est la canine. Et alors... Et voilà donc que Caïn va révéler à Adam Harishon que la tshuva est possible. La formule du Midrash est très très ramassée. Asiti tshuva, venit pasharti. On s'attendrait à hazarti bitshuva, ça c'est l'expression un peu contemporaine. Mais là je crois qu'il y a de nouveau un pshat très important et qu'on pourrait, je vais vous donner un exemple de cela, de nouveau expliqué à la manière de la Hassidoute. Je vais vous citer un autre texte et vous allez tout de suite comprendre où je veux en venir. Asiti tshuva. Alors, Veshameru bnei Israël et Shabbat, la Asot et Shabbat. C'est passé dans le jargon juif, faire Shabbat. Que ça veut dire faire Shabbat, okay? Si ça veut dire préparer le Shabbat, la viande à la confiture, ça on prépare ça le vendredi. Okay? Vas-y, faire Shabbat. Il y a peut-être d'autres expressions dans les folklores linguistiques juifs, mais ça m'a beaucoup frappé. Alors là, ça vient du Zohar. Et je vois, la première fois que j'ai étudié ce chidouche, c'était du Rabbi Elimelech, et qui explique comme ça. Si Israël observe le Shabbat, alors il fait le Shabbat. S'il observe le Shabbat de l'homme, il fait le Shabbat entre Dieu et le monde. Vous vous rappelez qu'on a déjà étudié cela, que lorsque commence l'histoire humaine, c'est Shabbat pour le Créateur. Kibo Shabbat Mikol Melatu. Vous vous rappelez de cela? Ça veut dire Dieu s'interdit d'intervenir dans l'histoire du monde, sauf dans le cas de nécessité d'intervention providentielle, et on appellera ça le miracle. Pour que l'histoire de l'homme puisse être libre, il faut qu'elle soit protégée par le Shabbat du Créateur. Or, ce contrat du Shabbat entre l'homme, entre Dieu et l'homme, dépend du Shabbat de l'homme. Vous voyez donc que ça veut dire « asiti » dans cette expression. Veshameru, Bene Israël et Tashabbat, la rassaut et Tashabbat. Si Israël observe le Shabbat, alors le Shabbat est fait entre Dieu et le monde. Ça veut dire c'est Shabbat dans le monde, pour Dieu dans le monde, ça veut dire les lois de la nature sont garanties. Si Israël n'observe pas le Shabbat, alors les lois de la nature ne sont plus garanties. Et c'est la notion très importante qui, je crois, ne se trouve telle qu'elle, et c'est intraduisible, que dans la mentalité hébraïque encore, c'est le mot de Hefker, qui est passé en yiddish, mais qui même en yiddish est intraduisible, sauf en yiddish. Hefker, le monde devient Hefker. Et alors, il y a divorce entre l'ordre des lois de la nature et l'ordre moral. C'est ça, Hefker. Okay. Ça veut dire, il n'y a pas Shabbat. Ça veut dire, le monde ne tient pas compte de l'ordre du mérite. Si vous voulez. Est-ce que c'est clair, plus clair ce que j'ai dit là? Alors, Hok Natan Velo Yaavo, la protection de la liberté humaine à travers les lois de la nature, qui est le Shabbat du Créateur, dépend. Alors, vous allez dire, et c'est évident, là, il y a là une notion mystique. Ça veut dire que l'ordre naturel, le fonctionnement de l'ordre naturel, dépend de l'ordre moral. Ça, c'est évidemment, pour la culture occidentale, c'est de la mystique. C'est-à-dire, c'est une évidence qui a disparu de l'Occident. Et c'est pourquoi j'ai employé ce terme de mystique, mais c'est évidemment, si j'ose dire, l'évidence hébraïque de base. C'est ça le monothéisme. Hashem ho Elohim. Ça veut dire que c'est une même souveraineté qui garantit l'ordre moral et l'ordre naturel. Et pour arriver à avoir une notion exacte du monothéisme hébreu, il faut premièrement récupérer cette évidence-là. C'est qu'il y a, bien que ce ne soit pas évident, expérimental, c'est pourquoi on parlera de mystique, il y a une notion de base qui a disparu de la culture moderne, que les Grecs anciens avaient d'ailleurs, et que toutes les sociétés ont eu, c'est que l'ordre naturel, par rapport au sort de l'homme, dépend de l'ordre moral. Alors là, je pourrais en parler pendant très, très longtemps. Nous avons eu des études où on a touché un peu cela. Mais je voulais simplement, puisque j'ai cité Emmanuel Reich, citer Jacob Gordin, Zichrono Livracha, une des premières rencontres qu'on a eues avec lui, juste après la guerre mondiale. Non, elle n'était pas finie encore. À la découverte de la Shoah, de tout ce qui est arrivé. Et lui, il parlait tranquillement au nom des évidences traditionnelles. Et il nous disait ça dans des formules qui, en tout cas, me sont restées dans la mémoire et m'ont beaucoup frappé. Il disait, il parlait de la guerre d'Espagne, parce que c'était l'expérience de horreur qu'on avait eue avant, dans les années 30, ensuite les années 40. La fin des années 40, c'était déjà l'autre horreur. Je crois que d'ailleurs, la guerre d'Espagne, ça a été les exercices à la guerre mondiale. Je ne sais pas comment on dit ça, j'ai oublié en français. Achana, Tirol, Ken. Et c'était le champ de bataille expérimental de ce qui est arrivé après. Et là, il me disait, plus les Juifs mangent cachère, et moins le sang est versé dans le monde. Et nous, jeunes étudiants, on entendait ça. Bon, c'est Haram qui parle. Il nous donnait des exemples à propos de la guerre d'Espagne. Vous vous rappelez Guernica, tous ces massacres, c'est là qu'on a commencé à ressentir l'horreur de l'impasse de cette civilisation. Une des formules qui m'est restée dans la mémoire, c'est « Plus il y a de vertus, plus les fleurs ont de parfum et les étoiles sont belles. Voilà. » Vous allez me dire, c'est de la mystique. Mais c'est ça la foi juive. Hashem hu Elohim. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre l'ordre du mérite moral et l'être de la nature. J'ai retrouvé par la suite chez le Rav Kook énormément d'enseignements qui vont dans lorsqu'il dit Ve'aolam itbassem, ça veut dire et le monde se parfumera. Mais il faut voir tout ce qu'il y a derrière d'après les sources. C'est-à-dire on a bien l'impression que ce que nous appelons la nature est dénaturée elle-même. J'ai remarqué ça, moi j'ai eu encore le privilège dans ma jeunesse, avant la guerre mondiale, de respirer des roses qui avaient un parfum. Je me rappelle de ça. Je me rappelle intellectuellement. Même pas la manière de Proust, la mémoire affective, mais je me rappelle de ça. Ça n'existe plus, sauf dans des roses de serre, ou je ne sais pas dans quelle Hawaï perdue, ou Tahiti retrouvée. Mais en tout cas, c'est fini. Les fruits n'ont plus de goût, les fleurs n'ont plus. Vous avez remarqué ça? Et les étoiles, c'est plus les étoiles. Je ne sais pas si je suis arrivé poétiquement ou pas à vous faire comprendre ce que voulait dire M. Gordin, mais il y a quelque chose comme ça. Hein, je crois qu'il ajoutait aussi, et les jeunes filles sont plus belles. Bon, ça va jusque-là. Vous savez, hein ? D'accord. Vous savez d'ailleurs, quand on rencontre une jeune fille belle, il y a une bracha spéciale qu'on donne. Bon, en tout cas, pour revenir à notre problème, j'ai dit une bracha. Pour revenir à notre problème, voilà là. Slicha. D'accord, c'est la même chose. Juste à la fin du midrash. Et alors j'insiste parce que il y a, je sais pas moi, 20 ans, 30 ans, j'aurais hésité à employer ce terme de mystique, qui est précisément une catégorie grecque complètement opposée à l'atmosphère de la, disons, sensibilité hébraïque. D'ailleurs, c'est plein de calomnies, ce mot-là. Quand on veut dire de quelqu'un qu'il est cinglé, on dit qu'il est mystique. Je sais pas. Cinglé, priez pour nous. Mais je crois qu'effectivement, pour l'occidental, ce qui est resté très profondément, le pressentiment du monothéisme, a été complètement occulté. Et lorsque ça revient, c'est entendu comme étant de la mystique. C'est suffisamment clair, au moins du point de vue du sens des mots. Mais vous avez cela essentiellement dans le Kriyat Shema. Et il arrivera. Si vous observez mes commandements, je donnerai la pluie en votre temps. Si Lebovitch était dans la salle, il éclaterait. Okay ? Alors, vous croyez que le bon Dieu, c'est le fonctionnaire du ministère des eaux et forêts ? Et pourtant, il dit le Kriyat Shema. Ça, c'est le drame de la schizophrénie intellectuelle. Je ne parle pas de Lebovitch, mais intellectuel de l'Occident. Okay ? Et c'est écrit en toutes lettres dans le Kriyat Shema. Et il arrivera, si vous observez mes commandements, je donnerai la pluie en son temps. Peut-être qu'il n'est pas arrivé jusque-là. C'est pas je donnerai la pluie. Je donnerai la pluie en son temps. Ça veut dire la bracha. Lorsque la pluie est en son temps. Vous avez, c'est un thème très important du quand les choses arrivent en leur temps. Davar beito matov. Dans le texte du premier psaume. Ce thème-là. Vers Léou Loïbol. Lorsque un arbre donne sa récolte, mais qu'elle n'est pas en son temps, c'est une récolte hinam, batot, comme on dit ça en hébreu, en français. On ne peut pas traduire, c'est du yiddish. Pour rien. C'est vraiment le plus grand efker. Les choses ne sont pas en leur temps. Et dans la vie humaine, vous savez à quel point toutes ces hasvei shalom qui arrivent parce que les choses n'arrivent pas en leur temps. Quand il est là, elle n'est pas là. Quand elle est là, il n'est pas là. Et c'est toute l'histoire des rapports entre Israël et la Shrina. Vous attendiez autre chose. c'est un verset d'ailleurs. Madoua bati ben ish. Et alors, pourquoi on a parlé de ça? Oui, c'est le lien entre. Alors, on continue. Itril Adam Arishon, alors le premier homme, Itril Metapeach Alpana, et Mazé Metapeach, oui, c'est vrai, ok. Oui, bon, j'ai compris, Alpana, Amar, Kach Hi Koach Hatshuva. Ainsi est la force de la Tshuva. C'est-à-dire, je ne savais pas. Ainsi est la force de la Tshuva. Vani Lohaiti Odea. Et moi, je ne savais pas. Oui, la découverte de Adam Arishon, que la tshuva est possible. Comment il l'a découvert? À travers l'expérience de Caïn. Miad, on peut continuer? Ça va jusque-là? Vous rattacherez ça à des midrashim, non, c'est dans le Talmud, des Haggadot, qui dit, ils essayent de définir le profil culturel ou de civilisation d'Adam Arishon. Un de ces midrashim dit, Tzdukiyaya, qu'Adam Arishon était sadducéen. Et qu'est-ce que ça veut dire, sadducéen? C'est précisément ce à quoi nous avons fait allusion tout à l'heure. Il perçoit la divinité à la manière du philosophe, à travers l'ordre des lois de la nature. Et c'est ça un tzedouki. Alors ici, découvrant que la tshuva est possible, à la limite je dirais que la prière est possible, parce qu'on ne prie pas la nature, on fait semblant. Alors il devient juif, normal, orthodoxe, disons, pharisien. Adam Arishon Tzdukiyaya, c'est très fort comme midrash. Il était pratiquant, croyant, à la manière des professeurs d'université. c'est-à-dire grec, hébreu, bien sûr, l'université hébraïque, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez vu à qui je pense pas, mais la Gemara a déjà diagnostiqué cela. Et on peut de nouveau le rattacher ici, la tshuva, de quoi tu parles. Alors quand il voit Caïn, il voit que ce Caïn-là est très loin du Caïn de Victor Hugo, hein, du Caïn des romantiques, qui sont des tragiques, parce que les romantiques, c'est des stoïciens avec la poésie romantique, les stoïciens avec la philosophie stoïcienne, et elle ne manque pas de grandeur, mais elle n'est pas poétique, malgré tout. Et alors, dans ce sens-là, du moins, pourquoi je parlais de... Plutôt, oui, et ça, c'est évidemment la rencontre entre l'esprit grec et la mentalité chrétienne qui nous donne ce genre de folklore biblique, là, il était dans le remords. Alors, qu'est-ce que fait Adam Harishon, dit le Midrash, mi Adam Adam Harishon ve'amar. Alors, Adam Harishon se lève et dit, Mizmor shir leyom haShabbat tov leodot Hashem. Il dit le psaume du Shabbat. Il est à Shabbat chez Yitzhuva. Quel rapport? Amar Rabbi Levi, et je vais revenir là-dessus. Amar Rabbi Levi a Mizmor azé Adam Harishon amaro. Venishtakach midoro. Regardez la profondeur du Midrash.